Et à la une en Israël, on va parler de 9 personnes blessées à Bnei Brak par les bombes à fragmentation envoyées par la République islamique. On parle avec notre invité du danger de cette arme largement utilisée par l'Iran pendant cette guerre. Notre invité qui n'est autre que Raphaël Jérusalmi, ancien officier des renseignements militaires, que je vous laisse le soin d'interroger, ma chère Lise.
Raphaël Jérusalmi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, je voulais qu'on revienne avec cet incident à Bnei Brak cette nuit sur les missiles à fragmentation qui touchent Israël. Raphaël, est-ce que c'est vraiment beaucoup plus difficile à intercepter qu'un missile balistique classique ?
Oui, rappelons tout de suite qu'il s'agit d'un crime de guerre, que ces missiles sont interdits à l'usage et la raison en est qu'il n'y a aucun contrôle de où leurs débris ou leurs bomblettes vont atterrir. Ce qui se passe, c'est que à la place donc d'un missile classique avec une ogive, une seule tête explosive, la tête du missile contient entre 20 et 50 bombelettes plus petites, dont la charge explosive est aussi plus petite, évidemment. Elle peut aller entre 5 et 20 kilos selon le nombre de bombelettes dans la tête principale, et la tête donc se divise avant l'impact, et à ce moment-là les bombelettes partent dans tous les sens, mais avec aucune possibilité de savoir ce qu'ils vont frapper. Or les Iraniens tirent en général sur des zones peuplées, et cela peut créer évidemment des dégâts. Alors si on n'intercepte pas ce missile bien avant qu'il atteigne la cible ou qu'il s'approche de la cible, eh bien, on s'expose effectivement à énormément d'impact. En général, la moyenne, c'est une vingtaine d'impacts à chaque fois. On l'a vu aussi hier sur Tel Aviv.
Alors effectivement, sur Tel Aviv, donc c'était une ogive d'à peu près 100 kilos. Quand c'est un missile entier qui n'est pas intercepté, c'est 450. Vous m'arrêtez si je me trompe. Raphaël, et
Hier, à Tel Aviv, hier, c'était en fait pas une bombe à fragmentation de petites bomblettes, c'était un ogive qui se divisait en trois. Et donc, il y avait l'ogive principale qui était restée de 100 kilos avec trois autres têtes de 100 kilos. Donc là, c'était différent, il y avait une fragmentation, mais simplement en quatre parties. Donc la partie principale, 100 kilos, à peu près 150 kilos, et trois parties uniquement qui se sont détachées, 200 kilos chacune.
Alors on voit justement, hein, Raphaël, que Téhéran alterne en fait entre des missiles lourds, des missiles à sous-munitions, des frappes comme ça, tout ça bien sûr pour contourner les défenses israéliennes. Est-ce qu'on a plus d'infos sur les défauts d'interception qui ont eu lieu ce week-end à Arad et à Dimona ?
Non, il y a une enquête est menée. En fait, il y a une hésitation en ce qui concerne Dimona en tous les cas, mais aussi Arad, de utiliser soit la Arrow 3, la flèche 3, qui est extrêmement coûteuse aussi, et dont il faut un peu parfois économiser l'utilisation, et la fronde de David. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est ce moment d'hésitation, même s'il a été très court, qui a créé l'incident. C'est ce qu'on pense qui est arrivé, et non pas un échec. Alors la différence, c'est que Arrow 3, la flèche 3, c'est ce qu'il y a de plus efficace, puisque ça détruit le missile dans l'atmosphère, donc très très loin, et là il n'y a vraiment aucun danger, il n'y a même pas de chute véritablement dangereuse de débris. Malheureusement, comme je dis, on ne peut pas utiliser ça à tir larigot, il faut voir à quel moment et on peut utiliser d'autres moyens, la fronde de David, le dôme de fer. Il y a donc parfois un choix à faire. On ne sait pas exactement encore quelle est la nature de l'échec entre guillemets pour ce qui a été le cas de Dimona et d'Arad, mais ce qu'on doit rappeler, c'est qu'il y a eu plus de 200 missiles balistiques tirés sur Israël depuis le début de ce conflit, avec 92% de réussite d'interception. Et donc le taux d'interception est très très élevé. Israël est le pays au monde qui a le seul à utiliser, expérimenter les missiles qu'il produit en temps réel sur en temps de guerre. C'est la raison pour laquelle le monde entier, à commencer par les Allemands, l'Inde, achète le Arrow 3 à Israël, même en grande quantité. Malheureusement, il faut au fur et à mesure de l'utilisation de cet équipement l'améliorer selon les situations. Et comme vous l'avez très bien dit, les Iraniens essayent par tous les moyens de diversifier leurs tirs, aussi les angles de tir, les zones sur lesquelles ils tirent, pour un peu semer la confusion dans la défense antiaérienne israélienne. Je ne suis pas 100% persuadé que c'est une stratégie. Je crois qu'ils tirent d'où ils peuvent, quand ils peuvent, et qu'ils puisent dans leur arsenal un petit peu au hasard.
Alors, c'est vrai que le taux d'interception est impressionnant, et heureusement pour la population israélienne, dont nous faisons tous les deux partie, Raphaël. Dites-nous néanmoins, est-ce que il n'y a pas quand même plus de précision aujourd'hui de la part des Iraniens? On voit bien leur volonté systématique de frapper Tel Aviv, de viser Ben Gurion, de viser Dimona, où on sait qu'a priori se trouve la centrale nucléaire. Ils ont quand même un petit peu amélioré leur système GPS et ils ont des coordonnées qui sont pas loin de leur cible tout de même.
Oui, oui, ils ont un excellent équipement. C'est grâce à l'aide technologique des Russes, des Chinois. Les Chinois l'ont d'ailleurs fourni quelques missiles, surtout dans les missiles navals de dernier cri. Donc ils ont un équipement qui est assez sophistiqué. Ils peuvent viser. On voit que sur Dimona, ils se sont quand même trompés d'une quinzaine de kilomètres. Sur les plusieurs cibles stratégiques, ils ont raté le coup, mais sur d'autres, effectivement, ils ont réussi avec des dégâts plus ou moins mineurs. Donc la menace de nuisance, car aujourd'hui, en fin de compte, ce qu'il reste aux Iraniens, c'est une capacité de nuisance. Ils ne sont plus une menace stratégique et existentielle pour l'État d'Israël, loin de là. Ils sont juste une menace de nuisance et de perturber la vie des Israéliens, l'économie israélienne, sans poser donc une menace stratégique véritable avec ces missiles. Je rappelle juste deux choses. Que s'il n'y avait pas une défense anti-israélienne efficace avec les missiles dont nous parlons, il y aurait aujourd'hui probablement entre 30 et 50 000 morts en Israël. S'il n'y avait pas eu de défense anti-israélienne, anti-aérienne du tout, un chiffre énorme. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait se rappeler. Et la seconde, si surtout si on parle du cas de Arad, il faut pas oublier qu'il y a une partie des Israéliens n'ont pas d'abri comme il faut, qu'il y a un manque à gagner et que le gouvernement en place, avec les gouvernements précédents, il est vrai, n'a pas fait le nécessaire, a dépensé beaucoup d'argent dans beaucoup de choses, alors que la priorité, c'était tout de même d'assurer que le peuple israélien soit bien protégé. Ça n'a pas été fait. Et puis il y a aussi l'autre partie, un certain manque de discipline, parfois, qui coûte donc des vies humaines, qui est le fait que les gens ne vont pas aux abris. Ça a été le cas à Arad, avec le maire d'Arad qui a dit qu'il allait changer les abris en synagogue. Voilà, qu'on n'avait pas besoin d'abris puisque Dieu nous protège. Malheureusement, Dieu ne devait pas être là ce jour-là. Et donc, il faut se rappeler à chaque fois qu'il faut absolument être discipliné et aller aux abris, parce que ne pas aller à l'abri, c'est rendre service à l'ennemi.
Merci beaucoup Raphaël Jérusalmi d'avoir été avec nous ce matin, ancien officier des renseignements militaires de Tsahal. Bonne journée à vous, à très vite.